Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Elles ont été présentées par le président algérien comme la dernière étape pour l'édification d'un État moderne. Gros plan dans votre édition sur les résultats provisoires des élections communales et départementales en Algérie. Nous écouterons Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Des interrogations à l'ONU sur la crédibilité de l'élection présidentielle en Libye, un scrutin prévu le 24 décembre prochain. Migration, d'une commission d'enquête à des politiques respectueuses des droits fondamentaux, le thème d'un séminaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une initiative du groupe Libertés et Territoires. Le député Bertrand Pancher, président de ce groupe au Palais Bourbon, sera l'un de nos invités. Des retraités vont manifester aujourd'hui en France pour une augmentation de leurs pensions. 9 organisations syndicales et associatives appellent à un rassemblement national à Paris. La Coupe arabe des Nations 2021, premier match du Maroc. Hier, les Lions de l'Atlas se sont imposés 4-0 face à la Palestine. Les résultats provisoires des élections locales en Algérie, élections communales et départementales, c'était le 27 novembre dernier, un scrutin marqué notamment par une nouvelle percée des candidats indépendants, Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Selon les résultats annoncés par l'autorité indépendante des élections, les voix étaient vraiment éparpillées. Ça donne une idée d'un éparpillement clair des voix lors de ces élections locales anticipées, puisque contrairement au passé, le FLN, Front de Libération Nationale, n'a pas rappelé toutes les assemblées élues locales ou de wilaya départementales. Idem pour le Rassemblement National Démocratique qui a perdu beaucoup de sièges. Idem pour le MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, et d'autres partis comme Tejem Mohamed El-Jazair, qui est un parti proche du pouvoir à l'époque de Bouteflika, l'ancien président, et également pour le Mouvement populaire algérien. Donc on a une nouvelle classe politique, si vous voulez, une nouvelle cartographie politique qui se dégage. Le FLN, il y a le RND, il y a aussi des partis émergents qui ont gagné beaucoup de sièges, contrairement aux dernières élections locales de 2017, comme le mouvement Al-Mustaqbal ou Harakat Al-Bina, c'est un parti islamiste, qui ont Saout Chab, qui est également un parti émergent, et les partis d'opposition, comme le Front des Forces Socialistes, qui a donc gagné plusieurs sièges, notamment en Kabylie, où il est ancré, où il a un ancrage populaire, à l'est d'Alger, les wilayas de Bouira, Boumerdès, Béjaïa, Tizi Ouzou, et également dans certaines communes dans les grandes villes, comme à Alger ou à Oran. Donc c'est une cartographie qui se dégage, et aussi ce qui marque aussi ces élections, c'est l'émergence des indépendants. Beaucoup de listes indépendantes, qui ne sont pas donc liées à des partis, ont gagné des sièges. C'est des listes formées ou composées surtout de jeunes cadres, de jeunes diplômés. C'est un peu l'orientation voulue par le président Tebboune, qui a appelé à ce que les jeunes s'impliquent davantage dans la gestion locale, dans les wilayas et dans les communes, pour une formation politique sur le terrain.
Il s'agissait d'élections communales et départementales. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les prérogatives des communes en Algérie?
Ce qu'on appelle le maire ou le président d'assemblée populaire communale, parce qu'en Algérie, il y a 58 wilayas, départements, et dans ces 58 wilayas, il y a des assemblées de wilayas. C'est une sorte de petit parlement de wilayas, de départements, et il y a 1541 communes dans ces wilayas, où il y a des assemblées communales. Le maire a des prérogatives sur la santé, sur la sécurité, sur l'hygiène, sur l'organisation des festivités sportives ou culturelles. Donc il y a beaucoup d'activités, mais selon l'opposition, les maires sont très limités, leurs prérogatives sont limitées. Et là, le président Tebboune a annoncé la révision du code de communes et de wilayas pour donner plus de prérogatives aux élus locaux, puisque selon l'opposition, ces élus sont un peu ligotés par l'intervention de l'administration, parce qu'en Algérie, il y a les daïra, c'est une sorte de sous-préfecture, et les préfectures, les wilayas, et donc les maires ou les présidents d'assemblées populaires communales dépendent de ces responsables d'administration qui parfois décident et changent même les décisions des maires. C'est-à-dire que l'élu, malgré qu'il soit élu, qu'il a des prérogatives, il dépend toujours de l'administration. Cela, visiblement, selon les pouvoirs publics, tout cela va changer à travers la révision de la loi sur la commune et de wilaya.
Et quel est le pourcentage de femmes élues après ces élections communales et départementales?
Déjà, le pourcentage des femmes qui étaient candidates à ces élections locales et départementales était déjà faible, à 15 à 20% de femmes dans les listes électorales des partis et des indépendants. Et le pourcentage de celles qui ont gagné, comme par exemple à Alger Centre, il y a une femme qui a gagné les élections, qui sera la maire d'Alger Centre, c'est une commune très importante. Le le pourcentage ne dépasse pas les 15%. Mais c'est un peu une analyse par rapport aux élections précédentes, les élections locales de 2017 et celles de 2012. La participation des femmes dans ces élections est beaucoup plus importante. C'est probablement la plus importante dans l'histoire des élections locales en Algérie.
Le président Abdelmadjid Tebboune s'était engagé à réformer toutes les institutions. Est-ce que ces élections locales et communales est en quelque sorte l'aboutissement de cette mission qui a été qualifiée de mission de modernisation entreprise par le président algérien ?
Et de reconquête de confiance et de crédibilité, selon les propos du président Tebboune. Effectivement, ce processus a commencé après l'élection du président Tebboune le 12 décembre 2019. Et puis, il y a eu un référendum sur la Constitution en novembre 2020, puis les élections législatives en juin 2021 et les élections locales. Donc en novembre 2021, ça termine effectivement un processus de renouvellement des assemblées élues parlementaires et locales. Et le deuxième processus qui va commencer en 2022, c'est ce qu'a détaillé le président Tebboune lors de sa récente rencontre avec la presse. Le deuxième processus, c'est des chantiers de réformes sociales et économiques, également culturelles, qui vont être entamés l'année prochaine, puisqu'il s'agit de moderniser l'État, effectivement, et aussi donner de crédibilité et de la force aux institutions de l'État très très critiquées après le Hirak, le mouvement de contestation populaire qui avait commencé en 2019 et qui avait obligé l'ancien président Abdelaziz Bouteflika démissionner.
Parce que justement sur le plan local, quelles sont les principales préoccupations des Algériens aujourd'hui ?
Sur le plan local, c'est des préoccupations qui datent déjà depuis longtemps. C'est les questions de logement social surtout, la question de distribution d'eau, bien qu'il y ait beaucoup d'améliorations dans ce domaine, la question de l'emploi qui est très cruciale, la question de l'aide aux agriculteurs, surtout dans les zones isolées, zones montagneuses, la question de la distribution d'énergie, bien que l'Algérie a réalisé de très bons scores, de très bons chiffres, notamment en matière de distribution d'électricité et du gaz, donc il y a des préoccupations qui sont liées à la vie locale. Et là, c'est pour cette raison que l'opposition a réclamé à ce que le maire ait plus de prérogatives, par exemple, pour améliorer les finances locales, puisque là, on parle de révision du code des impôts pour donner la possibilité aux maires d'avoir des taxes nouvelles et pour améliorer la gestion donc financière et également lancer des projets qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie générales dans ces communes, surtout qu'il y a des communes qui sont très pauvres et qui dépendent souvent des allocations données par l'État.
Et quand les élus seront-ils installés ?
Une fois tous les recours épuisés, après cela, probablement la semaine prochaine.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Des interrogations à l'ONU sur la crédibilité de l'élection présidentielle prévue en Libye le 24 décembre prochain. Le président du Conseil de sécurité estime que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin démocratique. À moins d'un mois de l'échéance, la liste définitive des candidats n'est pas arrêtée à cause de plusieurs recours déposés. Quelques 2 400 000 Libyens ont récupéré leur carte d'électeur sur une population de 7 millions. Une grève générale de 2 jours depuis ce matin au sein de la compagnie électricité du Liban, un mouvement à l'appel du syndicat des employés de l'entreprise publique. Ils protestent notamment contre l'absence de rénovation du siège d'EDL à Beyrouth après les explosions meurtrières au port de la capitale le 4 août 2020. Migration, d'une commission d'enquête à des politiques respectueuses des droits fondamentaux, le thème d'un séminaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Paris. Une journée d'échanges et de débats autour des recommandations portées par la commission d'enquête parlementaire sur les migrations. Initiative du groupe Libertés et Territoires. Le député Bertrand Pancher, président de ce groupe au Palais Bourbon.
La situation des migrants dans notre pays et en Europe est effroyable. Et le drame que l'on vient de voir se dérouler quasiment sous nos yeux est insoutenable. C'est-à-dire que 27 morts noyés à proximité des côtes françaises et britanniques, c'est vraiment insoutenable. Je rappelle quand même, dans cette affaire, la semaine dernière, un pneumatique est en train de couler. Les gens ont des téléphones portables. On appelle de la police française en leur faisant part de la situation de détresse. On leur répond qu'ils sont en territoire britannique. Ils appellent les Britanniques. On leur répond qu'ils sont en territoire français. Ils se tiennent la main pendant des heures et des heures. Le soleil commence à se pointer. Ils peuvent plus se tenir la main. Tout le monde coule. Et deux survivants, quoi, des femmes en enceintes, d'ailleurs des enfants, des hommes. Enfin, tout ça est parfaitement insoutenable. Et ça fait suite à tous les drames qu'on connaît en Méditerranée, aussi à la forêt, dans la forêt biélorusse. Et ça fait suite également aussi à tout ce qu'on voit en permanence dans notre pays. Moi, ce matin, à Paris, je faisais encore tôt ce matin, à 6h30, ma course à pied, comme je fais quand je suis à Paris, au Trocadéro, sous des bâches en plastique, il pleuvait, 1 degré, dormait une demi-douzaine de personnes. On ne parle pas d'animaux, on parle de femmes et d'hommes. Donc, il faut vraiment mettre tout en œuvre pour que ces drames humains cessent. Et pour que ces drames humains cessent, il faut d'abord faire respecter les droits fondamentaux. Il y a des droits garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a la santé des personnes migrantes. Il y a l'accès à tous aux droits pour demander des titres de séjour en préfecture avec des critères de régularisation pragmatique. Il y a le respect des droits à la frontière franco-italienne. Et les droits sont, dans notre pays, complètement bafoués. Et en plus des droits bafoués, on ne donne pas à ces personnes migrantes un accueil digne. Donc nous disons ça suffit. On ne peut pas accepter que la fraternité soit devenue un délit dans notre pays. On ne peut pas accepter les débats de haine, notamment instrumentalisés dans le cadre de cette élection présidentielle. Et je pense vraiment que la France est belle quand elle fait rayonner ses valeurs humanistes. Et outre une commission d'enquête que notre groupe parlementaire a mise en place révélant ces graves dysfonctionnements, tout le monde connaît, nous organisons un colloque, un séminaire à l'Assemblée nationale.
Justement, lors de ce colloque, vous recevez un des responsables d'ONG qui apportent leur soutien aux migrants. Estimez-vous que ces ONG devraient être davantage écoutées par le gouvernement?
Évidemment que ces ONG devraient être davantage écoutées, parce que heureusement qu'elles sont là. Elles évitent des morts, elles donnent des secours, des aides. Il y a la question du soutien à ces ONG. Il y a la question des politiques d'habitat. Il faut vraiment loger ces personnes. Moi, je suis pas évidemment favorable à ce qu'on ouvre toutes nos frontières, mais quand ces personnes sont sur nos territoires, évidemment, il faut qu'elles soient logées dans des conditions dignes. Puis il y a la question aussi de l'examen de leurs droits. Enfin, quand des personnes s'adressent dans des préfectures et que les préfectures ne répondent pas, tout ça va pas. Et puis j'ajoute évidemment les stratégies européennes, parce que les accords de Dublin qui font que quand une personne met un pied dans un pays, c'est le pays concerné qui doit s'en occuper, ce qui fait que on se renvoie nos migrants pays à pays en Europe. Les migrants se disent dans tel pays on nous renvoie pas, mais dans tel pays on peut nous renvoyer. On voit bien que c'est pas digne de cette Europe qui est le creuset quand même dans notre histoire de l'ensemble des droits fondamentaux.
Et quelle suite est susceptible d'être apportée après les résultats de cette commission d'enquête?
Écoutez, on a une commission d'enquête, on a mis les pieds dans le plat. Bon, on veut que le droit soit respecté, on veut des moyens, on veut vraiment qu'on puisse aboutir à une réelle vision d'ensemble dans notre pays sur la question des migrants. Les migrants, c'est pas des parties de ping-pong entre la France et le Royaume-Uni, quoi, hein, ou entre les pays au nord de la Méditerranée, les pays au sud. C'est quels moyens supplémentaires, quelle stratégie pour permettre des accueils dignes des migrants dans notre pays. C'est quand même pas compliqué de se mettre d'accord. Bon, et arrêter en permanence dire les passeurs. Bon, ok, il y a des passeurs, mais bon, s'il n'y avait pas de passeurs, de toute façon, on se débrouillerait pour quand même passer. C'est pas le seul sujet, évidemment. Il faut lutter contre les réseaux, les passeurs. Évidemment, il faut renforcer la politique extérieure de l'Europe Frontex, mais il faut aussi des moyens pour s'occuper humainement des migrants qui sont dans notre territoire. Moi, je rappelle quand même que quand un migrant arrive sur le territoire et qu'il n'a pas ses papiers, le migrant, il n'a pas déposé plainte quand il se fait exploiter par le patron qui peut l'embaucher. La migrante, elle ne va pas déposer plainte quand elle se fait tabasser ou elle se fait violer. C'est ça la réalité. Et tout ça, c'est insupportable.
Bertrand Pocher, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale. Un premier cas de variant Omicron confirmé en France métropolitaine. La personne contaminée est un homme qui réside en région parisienne. Des retraités manifestent aujourd'hui en France pour une augmentation de leur pension. 9 organisations syndicales appellent à un rassemblement national à Paris. Elles demandent la réinstauration de la loi Grand Âge promise par Emmanuel Macron, une loi enterrée par le gouvernement en septembre. La manifestation parisienne partira à 13h30 de la place d'Enfer Rochereau pour défiler jusqu'à l'esplanade des Invalides. La Coupe arabe des Nations 2021, le Maroc s'est imposé hier sur le score de 4-0 contre la Palestine pour son premier match. Le champion en titre rentre ainsi parfaitement dans sa compétition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal, à 19h et 23h. Et si on en parlait, le thème de l'émission, quelle situation en Syrie et en Irak? Alexis Bachelet recevra Thomas Pierret, chargé de recherche à l'IRMAM CNRS, et Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne. Très bonne suite de programme, très bon début de matinée d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h16.